FI.
Alors, on dit quoi?
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Alors on dit quoi qui s'intéresse aujourd'hui au podcast audio, ce contenu produit pour être écouté essentiellement sur Internet, un format qui séduit de plus en plus. Près de 100 millions de podcasts sont écoutés en France par mois et c'est un marché qui est en pleine structuration sur le continent africain. Il devient même le nouveau moyen d'expression des jeunes. Quel podcast écoutez-vous ou encore souhaitez-vous en produire? On attend vos témoignages pour en discuter avec nos invités.
Alors on dit quoi? Fenaï Traoré.
Et nos invités sont déjà bien en place à mes côtés. Je reçois une personne qui est de la maison. Bonjour Sina Toussaka.
Bonjour Fenaï.
Vous êtes journaliste, chef de projet éditorial en charge des podcasts de France Média Monde. Et nous aurons au téléphone Diane Audrey Ngako, elle est déjà avec nous d'ailleurs, directrice de l'agence de communication Omencard et promotrice du podcast Si Maman M'avait Dit. Bonjour et bienvenue.
Bonjour, merci beaucoup de me recevoir, c'est un plaisir.
Avec nous également en studio, Marie-Emta Moussanang, bonjour.
Bonjour Penaï.
Vous êtes la fondatrice de l'association Génération Afrotopia et créatrice du podcast Afrotopique, dont voici la bande-annonce.
Le but de notre évolution doit être l'homme. Et alors c'est pourquoi il serait plutôt bon que nous soyons à l'écoute les uns des autres pour essayer de trouver ce que nous avons de commun pour bâtir le bonheur de demain. Et dans tout ça, l'homme doit être l'objectif principal. Parce que toute réalisation qui ne fait pas le bonheur de l'homme est un long feu. C'est comme on tire à la cible et puis on rate le but.
Bonjour à tous et bienvenue dans Afrotopique, le podcast qui s'interroge sur les défis de l'Afrique et du monde et les manières d'y répondre. Je suis Marie-Emta Moussalang et je vous invite à me suivre dans cette exploration des enjeux contemporains depuis les Suds en général et les mondes africains en particulier.
Alors, on dit quoi ?
Marie-Emta, on vient de vous entendre dans ce podcast en introduction. C'est une autre Afrique que vous souhaitez faire entendre ?
Oui, merci Penaï. Oui, absolument. Écoute, donc dans cette introduction, on entend la voix de Amadou Ampateba. Je trouvais ça important de rendre hommage à ceux qui, avant nous, ont pavé la voie et ont mis en avant la culture, les cultures africaines et notamment l'oralité. Et à travers le podcast Afrotopique, ce que j'essaye de faire, donc à travers une série d'entretiens avec des penseurs, des chercheurs, des intellectuels, des hommes et des femmes, mais aussi des bâtisseurs d'alternatives concrètes, des gens qui sont sur le terrain. L'idée, c'est de faire circuler les savoirs, d'aller au plus près de ceux qui sont en train de nous aider à comprendre différents enjeux et voire même de nous aider à qui nous permettent de comprendre comment est-ce qu'on peut s'organiser pour relever les défis qui sont les nôtres aujourd'hui sur le continent africain, mais pas que.
Diane Audrey Ngako, au Cameroun, comment se porte le marché du podcast? Disons, comment se porte le podcast, hein, il est très connu ou pas? Pas encore.
Je pense que si on m'avait dit que j'ai créé il y a plus d'un an et demi, a donné en tout cas la possibilité aux créateurs de contenu camerounais de se lancer aussi. Mais après, il faut savoir que le podcast qui m'avait dit, le premier marché, les premiers auditeurs sont en France, les deuxièmes auditeurs sont au Canada, les troisièmes sont en Côte d'Ivoire, les quatrièmes au Sénégal et les cinquièmes sont au Cameroun. De manière générale, de temps en temps, le Sénégal, le Cameroun et la Côte d'Ivoire peuvent s'interchanger, mais je crois qu'aujourd'hui, 45% de notre audience, elle est française, et c'est souvent même l'audience française en France qui renvoie le lien via des groupes WhatsApp à leur famille basés sur le continent.
Oui.
Pour différentes raisons. Le podcast, notre podcast, il peut durer souvent une heure. Les personnes en local ont peur d'utiliser leur data.
Oui.
Et
ça coûte cher.
ça coûte cher dans certains pays, au Cameroun un peu moins qu'au Tchad, par exemple. Mais voilà, il y a un attrait. Je vois de plus en plus de podcasts qui naissent, que ce soit au Cameroun, que ce soit en Côte d'Ivoire ou au Bénin. Ça va continuer parce que finalement, c'est plus facile pour les gens de raconter leur histoire via l'audio que via la télé, qui est le premier média chez nous. Et donc, ils ont de plus en plus envie de partager. Encore plus quand vous êtes sur un espace de bienveillance, comme Simon m'avait dit, où finalement, même les retours des gens sont rarement dans le jugement. mais plutôt dans la compréhension.
Oui, on parlera tout à l'heure de votre podcast hein, si maman m'avait dit. Sinatou Saka, on a tendance à dire que pour le moment que le marché du podcast est bien plus structuré en Afrique de l'Est, en Afrique du Sud, plus que dans le reste du continent. Pourquoi ?
Alors la première chose qu'il faut quand même dire, c'est que quand on parle de podcast, on entend aussi beaucoup de contenus qui sont issus de médias traditionnels, hein, des radios traditionnelles qui mettent en ligne leur programme sur Internet. Donc faut quand même considérer dans la grande masse des podcasts ces contenus-là, même si aujourd'hui on considère que les podcasts originaux sont plus légitimes d'être appelés podcasts. Après, pour répondre plus précisément à la question, je dirais qu'il y a d'abord une influence américaine, hein, tout simplement de ces pays-là qui regardent beaucoup en direction des États-Unis. Donc les Kenyans regardent beaucoup ce qui se passe à New York ou à Manhattan, par exemple. Et donc, ils sont beaucoup plus influencés, ils sont beaucoup plus aptes aussi à prendre en main ce nouveau format. Et puis, il y a aussi la question de la connexion à Internet qui est beaucoup plus développée, tout simplement, dans ces pays-là. Je pense au Kenya encore, mais aussi au Nigeria, où le coût de la connexion à Internet est beaucoup plus accessible que dans plusieurs pays d'Afrique francophone.
Et justement, je vous propose qu'on écoute ensemble ce reportage de notre correspondante Anobla Aka en Afrique du Sud.
En Afrique du Sud, le podcast est le média numérique qui connaît la plus forte croissance en matière de production et de consommation. Si seule la moitié de la population du pays a un accès régulier à Internet, parmi celles en ligne, 43% a écouté un podcast au cours du dernier mois, selon Reuters, un pourcentage élevé par rapport à la moyenne mondiale de 36%. Et les podcasteurs et leurs consommateurs sont en partie représentés par une population jeune qui profite d'un format libre, alternatif, non censuré et accessible pour s'exprimer sur des sujets divers et variés. C'est ce que nous explique Mpo, une jeune présentatrice radio.
Créer un podcast demande très peu d'argent. Tout le monde peut faire un podcast. Tu as juste besoin d'un ou deux bons micros, un logiciel de montage et des réseaux sociaux. C'est tout. Ce n'est pas strict comme la radio peut l'être. Et je bosse aux radios, je sais de quoi je parle. En radio, tu dois préparer tout le contenu de tes émissions en avance, tu dois faire attention à tout ce que tu dis, car une radio est financée par des investisseurs. Un podcast peut se financer par toi-même. Tu ne dois rien à personne. Tu peux vraiment parler librement. Il n'y a pas de filtre, c'est plus authentique.
Miris et Mohamed ont 21 ans et vivent à Durban. Ils ont créé Good Vibes Insight, un podcast fait par des jeunes, pour les jeunes, qui traite des problématiques sociales, culturelles et psychologiques auxquelles les jeunes sud-africains sont confrontés.
On parle de tout, Mohamed et moi. Et on a réalisé que les sujets qu'on abordait entre nous et que nos conversations pouvaient en fait aider les personnes de notre âge qui vivent des expériences similaires aux nôtres ou qui sont confrontées à des difficultés. On s'est rendu compte qu'on pouvait être une plateforme et une source d'aide. Notre podcast est là pour inspirer les personnes de notre âge.
Se sentir entendu et compris, c'est aussi le sentiment de Jerry, un jeune barista homosexuel de 26 ans qui écoute essentiellement des podcasts s'adressant à la communauté homosexuelle. It feels like it
understands me. À travers le podcast, je me sens compris dans un système qui ne le fait pas toujours. En Afrique du Sud, les communautés sont très variées, mais les gens ne sont pas très ouverts d'esprit. Le podcast est l'endroit où je peux me retrouver. Je peux écouter des choses qui me parlent et je me sens compris. C'est pour ça que j'écoute des podcasts.
Nkosi est un passionné de finance et de crypto-monnaie. Le podcast est une façon pour lui de s'informer et d'en apprendre plus sur le Bitcoin.
You are able to actually learn a lot of things by listening to podcasts because different individuals come through.
Tu apprends beaucoup de choses en écoutant ce genre de podcast. Des personnes de différents horizons échangent sur différents aspects du Bitcoin. Par exemple, sur un épisode, tu peux entendre un spécialiste de l'industrie financière qui va te parler du Bitcoin d'un point de vue financier. Tu peux avoir un ingénieur qui te parlera de l'aspect de l'ingénierie logicielle du Bitcoin. J'ai tendance à écouter les podcasts lorsque je conduis ou que je voyage. Je mets mes écouteurs et je me laisse aller. Je m'évade à l'écoute de la conversation.
Le format podcast séduit la jeunesse sud-africaine car il accompagne une libération de la parole et du savoir. C'est en tout cas ce qu'observe la journaliste Mpo.
La jeune génération sud-africaine est prête à changer les choses. Elle est prête à écouter des contenus qui sortent du format traditionnel de la radio ou de la télévision, qui sont contrôlés et régulés par le gouvernement.
Je pense simplement qu'une grande intelligence émotionnelle et intellectuelle se développe au sein de la population. Cela permet aux jeunes de voir à quel point il est facile de faire la différence et de faire entendre sa voix sans avoir à passer par des canaux médiatiques traditionnels. Cela montre que les jeunes veulent du changement en Afrique du Sud.
Merci à Nobla Aka pour ce reportage en Afrique du Sud. Alors, Marie Emta, une réaction par rapport à ce que vous avez entendu. On voit là-bas que les jeunes sont très motivés et ils sont de plein pied dans la production des podcasts.
Oui, alors en effet, en Afrique du Sud, comme dans d'autres pays plutôt anglophones du continent, moi en ce qui me concerne, je m'intéresse surtout à l'Afrique francophone aujourd'hui. Oui. Et je reviens du Tchad où en effet, comme l'a cité Diano Drengako, le coût de la connexion Internet reste encore très élevé. Je crois que c'est encore l'Internet le plus cher du monde, ce qui pose nécessairement en fait des soucis en termes oui. d'accès à ces différents contenus du podcast. Enfin, et très clairement, le podcast n'est pas encore développé là-bas, ni dans la consommation, ni dans la production. En revanche, je crois qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que c'est à nous peut-être d'innover sur oui. Et de trouver des stratégies pour réussir à toucher des publics cibles et de la même manière à les engager dans la production de podcasts. Moi, ça me fait beaucoup penser à ce qui s'est passé au moment de un peu du boom de l'industrie musicale et du streaming, de l'accès des plateformes musicales. Ce qui s'est développé au Tchad, ça a été ça a été tout un petit écosystème populaire de vente sur clé USB de sons
oui,
sur
les marchés. Oui, on se partageait les sons
exactement.
Sur les clés USB. Oui.
Voilà, ce qui permettait en fait de finalement mutualiser ou d'économiser sur le coût de la connexion et de ne pas avoir à télécharger de manière individuelle les sons sur sa propre data. Et je crois qu'en fait, il faut faire confiance peut-être à la créativité et aux manières dont on peut contourner les difficultés et transformer ces contraintes en opportunités pour développer de nouveaux circuit de circulation.
Oui. Sinatou Saka, ce que vous avez entendu sur le marché du podcast en Afrique du Sud concernant ces jeunes qui ont trouvé là un nouveau moyen d'expression, c'est bien ça? Ça peut se développer également dans les autres parties de l'Afrique, ça?
Oui, c'est ça. Ce que je trouve très intéressant dans ce qu'on a entendu, en fait, c'est une tendance qui s'inscrit finalement dans ce qu'on voit sur d'autres marchés, notamment en Europe ou aux États-Unis. Oui. C'est une volonté, en fait, de faire entendre des discours qu'on n'entend pas assez dans les médias traditionnels. Quand je prends par exemple la thématique du féminisme, je crois que les podcasts en France ont vachement aidé à démocratiser ce sujet oui. qui est devenu un sujet heureusement important et multi-traité par les médias traditionnels. Et je pense qu'en Afrique, les podcasts servent à ça aussi. On voit qu'il y a beaucoup de podcasts autour de la sexualité par exemple, qui est un sujet tabou dans beaucoup de communautés africaines. Et il y a beaucoup de personnes qui se servent de ce nouveau format pour traiter de ce sujet, pour éduquer leur père. Après, moi, je suis très, très optimiste aussi comme Marie par rapport à ce format
oui.
qui finalement, comme beaucoup d'Africains se sont emparés des réseaux sociaux pour devenir, on l'a vu, influenceurs, vont aussi s'emparer du format podcast qui est, comme on l'a entendu, très, très simple pour faire entendre leur voix, pour raconter leur Afrique à eux.
Et si l'on parlait de ce que l'on ne s'est jamais dit, arracher la parole au silence, alors que le soleil se lève sur le jardin de mes peurs, de l'ignorance, illuminer les coins obscurs du labyrinthe de ma liberté. Si maman m'avait dit...
Si maman m'avait dit un podcast de Diane Audrey Ngako, alors qu'est-ce qui vous a poussé à créer ce podcast?
Alors, lorsque je crée ce podcast l'année dernière, l'idée c'est surtout de libérer la parole. Hein. Au-delà de tout, je trouvais qu'on vivait dans des sociétés où on ne pouvait pas aborder tous les sujets qui me semblaient évidents. Moi j'ai grandi en France et en France, bien que certains sujets tabous, on a quand même la possibilité d'échanger sur de la sexualité. Que ce soit hétérosexuel, homosexualité, sur la vie de couple, sur la polygamie, sur la vie de famille, bref, sur plein de sujets. Et j'ai trouvé quand même, après 4 ans de vie à ce moment-là, entre Douala et Abidjan, qu'il y avait plein de choses qu'on devait toujours garder. C'était toujours entre mes 5 meilleurs amis et moi, soit via WhatsApp, soit via des voyages qu'on pouvait organiser, où on pouvait aborder certains sujets. Et je me suis dit, voilà, il faut lancer un podcast. Au début, je voulais faire un livre avec plusieurs personnes, où on pouvait raconter finalement les choses qu'on avait apprises, qu'on aurait aimé que notre maman nous dise. Et puis l'idée, c'était de se dire quelle est la chose la plus facile, la plus consommable pour une audience. Moi, en étant de la communication, j'ai pensé au podcast. Surtout que moi, je consommais énormément le podcast. Et je faisais partie d'une cible qui, pendant longtemps, ne consommait pas ce format. Il a fallu qu'il y ait des émissions ou des podcasts comme La Poudre, que j'adore, qui m'ont beaucoup touchée, qui m'ont beaucoup interrogée sur la question de la femme, dans une société française, aussi dans une société camerounaise. Et je me suis dit, ben, j'aimerais bien faire un podcast où je questionne finalement les gens sur différents points de notre société, sur les enfants qu'on peut avoir dehors, sur les seconds bureaux, sur l'homosexualité.
Ce qui est étonnant, c'est que les gens acceptent de se livrer, ce qu'ils n'accepteraient peut-être pas naturellement. Et on constate que dans le podcast, il y a une certaine confiance qui est là et ils acceptent de se livrer, de parler de l'intime. Et ça, c'est important dans une société africaine.
Oui, il y a certaines personnes qui assument de le faire à visage ouvert, découvert. Il y a des personnes qui choisissent de ne pas le faire. Le principe, c'est toujours de protéger mon invité, parce que je sais que ça demande beaucoup d'efforts de pouvoir le dire, parce qu'une fois que vous sortez un message, il ne vous appartient plus, votre histoire n'est plus votre histoire. Et quand vous voyez de votre histoire, vous, d'une certaine manière, vous impliquez votre mère, votre père, votre sœur, qui finalement n'ont pas demandé à avoir leur histoire aussi dehors. Donc, et je crois que cet espace de bienveillance que j'ai réussi à créer fait que de plus en plus de personnes à Kinshasa nous contactent, là je suis à Dakar, j'ai des enregistrements, nous ont envie de raconter certaines histoires. Mais je crois que le plus grand frein pour mes invités, c'est toujours de se dire qu'est-ce que mes parents vont penser, qu'est-ce que mon entourage va penser, qu'en dira-t-on. Même quand on change leur nom des fois, ce qui peut arriver, il y a toujours cette crainte de se dire si on reconnaît ma voix, est-ce que mes parents vont me renier. Des choses comme ça.
Mais c'est surtout que Si Maman M'avait Dit peut être considéré comme l'un des podcasts précurseurs de ce format-là au Cameroun.
Oui, mais je pense qu'au Cameroun, oui, mais je reste persuadée que si on se base sur l'Afrique francophone, c'est un des podcasts peut-être les plus... même les plus avec succès. Je crois qu'aujourd'hui, on a 200 000 écoutes en moins de 2 ans, ce qui est absolument énorme. Là, on a décidé d'aller sur d'autres plateformes type... YouTube, et on est en train de réduire le temps de nos audios pour les faire passer par WhatsApp. Tout à l'heure, on en parlait, juste comment on le diffuse. On s'est dit, bon, si on essaye de faire des capsules de 5 minutes via WhatsApp, ça peut encore plus circuler et donner envie aux gens d'aller écouter un épisode un peu plus global. Donc oui, donc aujourd'hui, en moins de 2 ans, on a plus précisément 192 000 écoutes, sans grand effort. On a commencé avec un téléphone portable, j'ai commencé avec un téléphone portable. Et depuis, je crois, 4 mois, grâce à l'aide d'une auditrice, parce qu'on avait arrêté un moment, on a eu on avait 7 millions de francs CFA pour acheter du matériel. Donc pour moi, c'est aussi important. Pour moi, c'est important de se dire que lorsqu'on crée le contenu, il faut qu'il soit rentable. Je ne souhaite pas qu'en Afrique francophone, on se dit constamment qu'on doit produire, et finalement les producteurs de contenu n'ont pas la possibilité d'avoir du matériel, n'ont pas la possibilité d'en vivre.
C'est l'une des difficultés, on en parlera tout à l'heure. Il y a des auditeurs qui souhaitent s'exprimer sur le sujet avant de donner la parole à ces auditeurs-là. Écoutons un peu du Aya Nakamura.
Toi t'es bon qu'à planer, ouais je sens ta sème, j'ai l'avocat. Entre nous y'a un fossé, toi t'es bon qu'à faire la mala. Bébé fait du sale, allo, allo, allo. Million dollars, bébé tu veux ça. Bébé fait du sale, allo, allo, allo. Million dollars, bébé tu veux ça. J'suis gang, hors game. Boy ne joue pas bang, bang, bang. J'suis gang, hors game. Boy ne joue pas bang, bang, bang. Bla 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 pouki. Ferme la porte à la pouki dans le side. Bla 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 pouki. Ferme la porte à la pouki dans le sas. Pouki, pouki. Ferme la porte à la pouki dans le side. Pouki, pouki, pouki. Ferme la porte à la pouki dans le sas. Ah, depuis longtemps, j'ai vu dans ça. Depuis longtemps, j'ai vu dans ça. Depuis longtemps, ah, ah, j'ai vu dans ça. bye bye, j'ai pas besoin de bye bye. J'te barre fort, là j'ai pas le time pour toi. J'te barre fort, là tu fais trop d'efforts. C'est bye là, c'est pour les mecs comme ça. Ta clé pour des pipettes, ça va claquer. Pour des pipettes, ça va claquer, crack. Pour les bons boys, ça va grave qu'écra. J'crois que c'est leur ding dong. J'suis gang, or game. Boy ne joue pas bang bang bang. J'suis gang, or game. Boy ne joue pas bang bang bang. Blap 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 pouki. Ferme la porte, t'as la pouki dans le side. Blap 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 pouki. Ferme la porte, t'as la pouki dans le sas. Ah, depuis longtemps, j'ai vu dans ça. Depuis longtemps, j'ai vu dans ça. Depuis longtemps, ah, ah, j'ai vu dans ça. Bébé, bébé du sale, allo, allo, allo. Million dollars, bébé, tu vaux ça. Bébé, bébé du sale, allo, allo, allo. Million dollars, bébé, tu vaux ça. Bébé, tu vaux ça. Oh, c'est chaud là, oh. Oh, c'est chaud là. Oh, c'est chaud là, oh. Oh, c'est chaud là. Ah, depuis longtemps, j'ai vu dans ça. Depuis longtemps, j'ai vu dans ça. Depuis longtemps, ah, ah, j'ai vu dans ça. Ah, depuis longtemps, j'ai vu dans ça. Depuis longtemps, j'ai vu dans ça. Depuis longtemps, ah, ah, j'ai vu dans ça.
Alors, on dit quoi?
Aya Nakamura avec son titre Pouki, une petite dédicace à Sinatou Saka qui l'aime bien.
Alors j'aime bien Aya Nakamura, peut-être pas Pouki, enfin j'aime bien Aya Nakamura, je l'assume.
Alors notre première auditrice c'est Sahaza depuis le Burkina Faso, bonjour.
Bonjour.
Vous avez lancé votre podcast il y a quelques mois pour faire connaître le domaine dans lequel vous travaillez. Où en êtes-vous aujourd'hui? Expliquez-nous.
Mon podcast il s'appelle Tech Radio et est diffusé sur Facebook.
Oui.
Et ça parle généralement de tout ce qui est innovation technologique ici en Afrique, que ça soit francophone ou bien anglophone, mais c'est un podcast qui est en français. Donc actuellement, j'en suis que à une première épisode que j'avais effectué au tout début.
Oui.
Je pense que juste après quelques jours où j'avais eu l'idée de lancer le podcast, j'avais eu quelqu'un à interviewer.
Mmh.
Et malheureusement, jusqu'à maintenant, c'est un peu en stand-by parce que il y a aussi la difficulté d'atteindre certaines personnes pour pouvoir faire des interviews parce que c'est quand même un domaine qui est assez restreint, que peu de personnes s'y connaissent ici en Afrique et c'est un peu ça.
Et qu'est-ce qui est également difficile dans la réalisation de votre podcast, à part le fait que vous avez du mal à toucher des interlocuteurs, des gens à interviewer? Qu'est-ce qui est le plus difficile aussi pour vous?
Je pense le matériel aussi, parce qu'actuellement, j'enregistre avec mon unique téléphone. Et je pense que si j'avais aussi accès à certains outils d'enregistrement beaucoup plus professionnels, ça serait plus facile de faire des interviews à distance ou bien en présentiel aussi.
Oui. Diane Audrey Ngako, vous avez parlé tout à l'heure du matériel. Vous avez commencé avec le téléphone. C'est déjà pas mal quand on commence avec ce qu'on a.
Oui, c'est ça. Moi, j'ai fait ma première saison avec mon téléphone. Mes invités rigolaient toujours parce qu'ils n'imaginaient pas que c'était avec un téléphone. Ceux qui sont dans le milieu peuvent le reconnaître au niveau du son, mais je crois que même les trois premiers épisodes de la saison 2, on a ça avec le téléphone. Avant justement de créer d'aller sur des plateformes comme Tipeee pour permettre à notre communauté de nous soutenir,
oui.
Je ne pense pas aujourd'hui, si on a une idée de podcast, que le matériel soit un frein. Il faut avoir l'idée, une idée qui vient du cœur, et il faut pouvoir faire un contenu qui touche une cible. Une fois que vous arrivez à toucher un public, vous êtes quand même sûr que ce public, si au bout de la saison 2 ou la saison 3 de votre projet, vous souhaitez avoir du matériel, je pense qu'avec 600 000 francs CFA, 1 000 euros, vous avez de quoi faire.
Mais ça, c'est pas à la portée de tout le monde. Hein. C'est par la portée de tout le monde, et surtout si on veut du matériel de qualité pour pouvoir réaliser des interviews de qualité.
Avec 600 000 francs, on peut faire des interviews de très bonne qualité. Et quand je dis 600 000 francs, c'est que si vous avez déjà réussi à créer et à mobiliser une audience sur une année, sur une saison, elle est capable, si votre contenu la touche est pertinent, de vous accompagner à avoir les 600 000. C'était le cas, on m'avait dit. Par épisode, on avait 10 000 écoutes, environ 8 à 10 000 écoutes. Et au bout de la saison 1, on a commencé à créer, on a créé une plateforme sur Tipeee pour demander à notre audience de nous soutenir.
Oui.
Et c'est comme ça, notamment, qu'une de nos abonnées qui nous écoutait depuis Amsterdam nous a mis à disposition via son organisation la somme de 10 000 euros. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qu'on devrait voir.
Pour pouvoir multiplier ses sources de financement et pouvoir s'équiper en matériel. Sarza, vous avez autre chose à ajouter?
Bon, peut-être une chose à ajouter, c'est que actuellement, vraiment, ma cible, c'est surtout la jeunesse ici en Afrique.
Et oui.
Comme on le sait tous, la plupart de ces jeunes n'ont pas forcément accès à des plateformes d'écoute de podcasts. Moi, actuellement, j'utilise Facebook, comme je l'ai dit, parce que Facebook, c'est très utilisé pour sortir un peu aussi du format vidéo on zap, ça va permettre vraiment en fait aux gens de rester et d'écouter un podcast de 3 minutes ou de 5 minutes sur un sujet qui est assez intéressant. Et ma première épisode, quand même, j'ai eu un très bon retour.
Oui.
Sur ce que j'ai publié, et vraiment j'espère que d'ici là je vais vraiment reprendre sur des interviews et actions vraiment y mettre du mien pour pouvoir accéder à des interlocuteurs pour interviewer.
Merci beaucoup. Merci. À vous, Sarza. Très bonne journée.
Bonne journée aussi.
Nous avons une autre auditrice, hein, Kadi Toalo, qui est de la Côte d'Ivoire. Bonjour, Kadi.
Bonjour.
Vous êtes une fan de podcast, hein. Vous êtes une grande consommatrice de podcast, notamment le podcast « Si maman m'avait dit ».
Exactement.
Voilà, vous avez dit à Audrey Ngako au téléphone, si vous voulez lui faire un coucou, voilà, c'est l'occasion de lui dire.
Bonjour Diane, et puis merci beaucoup pour si maman m'avait dit, parce que c'est justement ce genre de podcast qui moi aussi m'a donné envie de me lancer, parce que moi je crois vraiment à cette possibilité de pouvoir partager des expériences, se connecter aux gens juste à travers la voix, écouter des témoignages et récits. Donc vraiment merci pour cette source d'inspiration.
Oh, merci beaucoup. Ça me fait chaud au cœur.
Alors, Kadi, vous, votre podcast s'appelle On dit quoi? À ne pas confondre, hein, avec le nom de notre émission. Alors, On dit quoi? Vous vous intéressez beaucoup plus à la société ivoirienne, à la vie en Côte d'Ivoire.
Exactement. Moi, j'ai voulu lancer ce podcast parce que je ne trouvais pas autour de moi, justement en tant que consommatrice de podcasts, des podcasts qui vraiment donnent une analyse critique et progressiste de la société ivoirienne. Donc, je me suis dit, plutôt que de chercher désespérément, pourquoi ne pas moi-même, en fait, offrir cette plateforme-là en décryptant des sujets qui me tiennent à cœur, mais avec un regard particulier qui est le mien, c'est-à-dire un regard féministe, un regard progressiste et qui cherche vraiment à cathartiser, en fait, certains mots de la société ivoirienne.
Et ça a été facile ou pas pour vous lancer?
Ah, ça n'a pas été du tout facile, hein, parce que toutes les façons, la création de contenu, je pense que tous ceux qui se lancent dans ce domaine, on a le syndrome de l'imposteur, on se demande si on est légitime, il y a la question du matériel, du financement. Ça n'a pas été facile, mais je me suis toujours dit que autant commencer avec ce que j'ai, parce que si je dois me poser 90 000 questions, je ne vais jamais le faire. Et au final, je me suis lancée, c'était pendant le confinement, j'ai beaucoup réfléchi, je me suis lancée et l'accueil a été plutôt positif. Donc, je suis vraiment contente d'avoir lancé cette aventure.
Oui. Sinatou Sakra, on parlait tout à l'heure, hein, de la production du matériel. Et je vous voyais un peu sourire, vous avez quelque chose à dire concernant le matériel et aussi toutes ces plateformes, hein, oui, sur lesquelles on peut diffuser son podcast.
Alors en fait, par rapport à ce que Diane disait, ce que je voulais relever déjà, c'est un élément qui est important quand on se lance dans le podcast, et on le voit très bien avec le podcast de Diane, c'est la personnalité qui l'incarne. Et c'est indéniable que le succès du podcast de Diane est très lié en tout cas à ce qu'elle incarne aussi, à son énorme visibilité sur les réseaux,
oui,
à sa notoriété. Donc c'est très important de bien garder en tête que voilà, un podcast comme ça est aussi lié à une personnalité qui a une communauté qui est déjà présente et qui livre déjà du contenu par ailleurs.
Mmh.
L'autre élément qui est aussi très très important à noter, hein, c'est que quand on se lance dans le podcast, il y a une sorte de vase communicant, c'est-à-dire que Diane, elle le dit très bien, mon audience, elle est à l'extérieur, et finalement c'est se dire que les gens qui vous écoutent sont pas forcément dans votre entourage immédiat, et les gens qui vous écoutent sont au-delà de vos frontières. Donc il y a une volonté en tout cas de la jeunesse africaine de parler à la jeunesse, on va dire, afro-descendante dans le monde entier, et puis il y a une volonté aussi, il faut le dire, de la jeunesse afro-descendante, mmh, de s'intéresser à ce qui se passe sur le continent,
mmh,
et en tout cas de rester connecté à ce continent-là. Donc vraiment rester dans une ouverture d'esprit et aussi se dire que les gens qui vous écoutent sont partout dans le monde à partir du moment où vous mettez votre contenu sur Internet.
Et Kradi, vous avez quelque chose à ajouter ou une question à poser?
Si j'ai quelque chose à ajouter, moi, c'est vraiment d'encourager les jeunes vers le média qui est le podcast, hein, parce que moi, je pense vraiment que c'est un outil d'avenir.
Oui.
Je pense que ça va vraiment remplacer la vidéo qui demande beaucoup de mobilisation visuelle. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, le podcast peut vraiment changer les choses juste avec une voix, juste avec un téléphone et un record audio. On peut vraiment changer le monde. Et si j'avais une question, bah, ce serait plutôt quels sont les conseils que Diane ou d'autres personnes présentes sur le plateau peuvent nous donner quand justement on ne vient pas de ce monde où on est surmédiatisé, où on a déjà une communauté forte. Comment est-ce qu'on peut grossir son audience en étant peut-être Madame Tout-le-Monde ou Monsieur Tout-le-Monde?
Alors Diane Odrengako, comme vous avez été citée, je commence par vous. Quels conseils vous pouvez donner à Kadi?
Alors, je pense qu'il faut faire les choses avec son cœur. Parce qu'avant d'être surmédiatisé, on a été inconnu en fait. Et c'est notre travail qui a fait qu'à un moment, les gens ont voulu savoir qui était potentiellement derrière. Je crois qu'en Côte d'Ivoire, il y a le podcast de Jessica Brou, Conversation privée,
oui.
Qui est, je pense, un de mes trois podcasts préférés. Jessica, elle est peut-être peu connue, mais son podcast est tellement important en Côte d'Ivoire que tout le monde en parle constamment. L'idée, c'est vraiment aussi d'avoir des bons invités. Si les invités aussi jouent le rôle dans certains cas. Si, par exemple, Radhi, qui a son podcast, on dit quoi, traite de sujets, comme on a pu voir sur une chaîne de télé récemment, bah, il faut qu'elle ait des invités de qualité. Il faut qu'elle soit souvent factuelle, quitte à rajouter un peu d'elle. Elle parle de féminisme, de progressisme. Et aussi, il faut qu'elle puisse être dans ce qu'on appelle le newsjacking.
Oui.
Quand il y a du newsjacking, tu es complètement dans l'actualité, ce qui fait que ton podcast intéresse les gens.
Mm-hmm.
Si on parle de féminisme de toute une semaine, si ton émission de la semaine parle de féminisme, tu rentres complètement dans l'actualité. Donc les gens te découvrent, les gens ont de l'intérêt. Et voilà, donc je pense qu'il ne faut pas trop se poser de questions. Est-ce que je suis visible? Est-ce que je ne suis pas visible? Il faut juste faire les choses avec le cœur. Et quand les choses sont bien faites avec le cœur, vous avez toujours une audience qui vient et qui vous recommande.
Marie Emta, vous avez quelque chose à dire à cette auditrice, Kadi?
Alors, sur la production de podcast, je saurais pas trop, mais en revanche, je crois qu'on a beaucoup insisté sur le podcast comme outil d'expression,
oui,
qui permet de faire émerger des voix qui sont relativement marginalisées ou inaudibles, et en cela, c'est vraiment très bien que le podcast se démocratise sur le continent. Après, je crois que pour moi, en tout cas, j'ai beaucoup plus d'ambition pour le podcast, et je crois que c'est pas simplement un outil d'expression, mais que ça peut réellement être un moyen d'émancipation collective. Et en fait, on peut tout à fait imaginer faire de ce support, de ce format, un nouveau moyen en fait de nous éduquer collectivement, de transmettre des savoirs et de les faire, oui, circuler dans l'espace public. Donc, je crois que moi, en tout cas, je dirais qu'il faut pas hésiter à aller aussi vers des pratiques éditoriales très fortes avec une ligne affirmée,
mmh,
et d'essayer de trouver de nouvelles manières de réinventer peut-être l'école. Moi, je sais qu'en tout cas, pour ma part, j'ai beaucoup été sensibilisée, voire j'ai même été initiée à l'écologie par un podcast, en fait,
oui,
le podcast Présage d'Alexia Soyeux, que je recommande à tout le monde. Et puis aujourd'hui, on a des exemples. Sinatou citait les podcasts féministes. Je crois qu'il y a des choses très très bien qui sont faites, mmh, aujourd'hui et qui permettent de faire vivre les sciences sociales et la théorie en les mêlant à du vécu, à des communautés, en partageant avec des communautés d'auditrices et d'auditeurs, en les impliquant en fait dans la production de ces podcasts-là, mmh, et ça donne vraiment des choses particulièrement pertinentes qui derrière peuvent découler sur de l'action,
parce que moi je crois sur d'autres choses, oui,
sur de l'action,
du concret aussi,
ouais, vraiment de l'engagement et de la transformation, mmh, sociale, et qu'au fond on pourrait peut-être, enfin, il faut pas oublier que le podcast, c'est aussi juste un moyen, mmh, un médium pour connecter sur d'autres choses et embrayer sur d'autres choses derrière. Et moi, en ce qui me concerne, en tout cas, dans la ligne que je défends, c'est vraiment de la transformation sociale.
Oui. Merci beaucoup, Kadi. J'espère que nos invités vous ont quand même donné quelques conseils qui vous serviront pour vos podcasts.
Absolument, merci beaucoup de m'avoir reçu.
Merci à vous pour votre participation. Marie Emta, vous gardez le micro. Tout à l'heure, vous, oui, parlez de ce qui est important. Il y a aussi la question de la transmission qui est importante pour vous. Vous avez un projet d'ouvrir plutôt un studio de podcast à Dakar. Et tout ça, c'est pour mettre aussi en valeur l'oralité qui est inventée en Afrique.
Oui, absolument. Alors, donc, le projet, c'est un studio de podcast, mais moi, j'aime plutôt parler d'une maison d'édition d'oralité, oui. parce que l'enjeu et l'ambition, c'est de plutôt s'inspirer de ce qui est fait dans le monde de l'édition, plutôt de publication de livres. Et je m'inspire surtout, en fait, des maisons d'édition qui publient de la pensée critique. Donc, il y a cet enjeu-là, parce qu'il me semble qu'au fond, c'est une manière de faire circuler les idées, les savoirs, mais aussi de renouer peut-être avec... avec un, comment dire, des dispositifs de transmission d'histoire, mais de la grande histoire aussi avec un grand H, et même de la transmission de savoir qui peuvent passer par d'autres espaces que les espaces académiques, que les espaces simplement militants. Je crois qu'en construisant, en proposant une sorte d'outils mutualisés de production, on ouvre la porte à... En tout cas, on rend possible la création
Et on crée également un cadre de dialogue, de pensée commune.
Oui, on crée un cadre de dialogue qui peut s'articuler derrière avec non seulement donc des écoutes collectives, le fait de se réunir pour écouter et découvrir des savoirs. Moi, j'essaye de faire très attention à la manière dont on peut imaginer des modes de fonctionnement qui ne viennent pas écraser les systèmes, en fait, les pratiques sociales qui existent déjà et qui, au fond, auxquelles finalement le podcast là dans les sociétés contemporaines européennes viennent réanimer au fond les communautés de partage et les groupes un petit peu cercles de parole, mais qui existent encore sur le continent. Je pense notamment au grain, au cercle de
autour du thé.
Exactement, autour du thé. En fait, des discussions qui sont au fond, qui jouent déjà le rôle de ce que la jeunesse européenne ou occidentale qui écoute des podcasts est en train d'aller rechercher dans le podcast. Mais comment allons-nous faire pour développer du podcast qui apporte quelque chose et qui ne vient pas finalement individualiser ces pratiques-là, ces écoutes-là ou ce partage-là. Et voilà, c'est donc il y a plein d'enjeux, et il n'y a pas seulement les modèles économiques qui sont bien sûr de vraies questions, mais il y a également des enjeux plus culturels auxquels faire très attention.
Ouais. Avant de donner la parole à nos prochains auditeurs, j'aimerais partager avec vous notre coup de cœur musical de la semaine.
Hello, hello, chers auditeurs de RFI, ici c'est Greg Bukimbila. Je suis artiste musicien. Aujourd'hui, je vais vous proposer mon titre Halale, qui porte d'ailleurs le nom de l'album sorti le 9 septembre passé. Une chanson d'espoir composée avec beaucoup d'attention pour tous les cœurs désespérés. Le meilleur oxygène qui doit remplir le poumon de nos efforts est l'espoir. J'invite à la détermination et à se battre pour s'en sortir, peu importe l'adversité. Merci beaucoup.
Ceux qui croient avoir enterré seront surpris de voir Dieu t'élever. Suis un enfant de Dieu, je ne crains rien. Enfant béni de ses parents, je ne crains rien. Je réussirai, je réaliserai, je construirai. Oh, oh. Je me marierai, j'aurai deux enfants, je serai heureux. Ouais. Ma famille sera fière, fière, fière de moi. Mes amis seront fiers, fiers, fiers de moi. Et mes ennemis vont se rallier. Rallier, vont se rallier. Balam yam baram halale. Halale, 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 burkin bil halale.
Alors on dit quoi? Merci de nous écouter. Nous parlons aujourd'hui de podcast et notre coup de cœur de la semaine, c'était Halale, titre figurant sur le 4e album de ce jeune musicien burkinabé révélé en 2012 avec le titre La Fila Boumfa. Deux auditeurs sont avec nous, Adey Fofana et Ibrahim Diago. Ils vont nous parler de leur podcast.
En 1968, le jury du prix Renaudot récompense le premier roman d'un jeune écrivain malien alors âgé de 28 ans. Son nom, Yambo Wologem, premier africain lauréat du prestigieux prix pour son roman, Le Devoir de Violence. Aujourd'hui, Derrière la Plume revient sur l'histoire de l'écrivain malien Yambo Wologem à travers le prisme de l'œuvre de sa vie, Le Devoir de Violence. Vous écoutez Derrière la Plume par Adey Fofana.
Salut les amis, Ziarna El Boubar Abar, Dallen Adjam, Moukissène Podcast Wolof Tech.
bilen di jox lepp lu jëm ci walu informatique ak nouvelle technologie manam xarala yu bes ci kalam wolof. Alors tay le samedi 21 août.
Voilà, vous écoutez un extrait du podcast Wolof Tech hein, de Ibrahim Diago, mais avant de lui donner la parole, nous recevons Adey Fofana. Bonjour.
Bonjour.
Vous, vous êtes passionné des podcasts et de la littérature surtout. Dites-nous, qu'est-ce que vous écoutez en matière de podcast d'abord?
Alors moi, je suis une grande fan des podcasts de France Culture, tous les podcasts liés à la littérature, oui, que ce soit à la compagnie des œuvres de Mathieu Garrigou-Lagrange ou encore La Grande Table Culture.
Et sur le continent, qu'est-ce que vous écoutez? Vous avez des podcasts favoris sur le continent africain?
Oui, comme tu as dit, Simon m'avait dit. Voilà, ça c'est, je pense que c'est un podcast vraiment qui va devenir culte.
Et dites-nous, comment avez-vous commencé hein, votre podcast sur la littérature africaine?
Alors en fait, je trouvais que la jeunesse malienne surtout n'avait pas accès à la littérature et que c'était difficile en fait pour les jeunes de pouvoir avoir accès aux livres, d'avoir accès à la culture en général.
Oui.
Et je me suis dit en fait que créer ce podcast, ça pourrait rendre la littérature plus accessible et leur faire comprendre que ce n'est pas quelque chose d'élitiste, comme beaucoup peuvent le penser, mais c'est quelque chose auquel ils peuvent avoir accès et qu'ils peuvent comprendre surtout, même sans avoir les livres en leur possession en fait.
Et après quelques épisodes, vous avez suspendu et là vous en êtes où? Vous allez relancer le podcast?
Oui, alors on va relancer le podcast. On a essayé de prendre du recul quand même pour réfléchir à du nouveau contenu, à ce qu'on pourrait proposer. Éventuellement élargir le podcast à des sujets de société, pourquoi pas, et pas juste se concentrer sur les livres. Donc on est en plein travail là-dessus pour relancer le podcast à la fin du mois de septembre.
Merci beaucoup Adey Fofana, merci à vous pour votre participation.
Merci.
Alors Ibrahim Diago, vous, votre podcast, hein, il s'appelle Wolof Tech, il parle essentiellement des nouvelles technologies.
Ça s'appelle Wolof Tech et on parle des nouvelles technologies en Wolof.
Alors pourquoi vous avez décidé hein, de vous axer spécialement sur le Wolof, sur une langue nationale?
Alors là, j'ai fait mon podcast en Wolof parce que je me suis rendu compte qu'au Sénégal, partout dans le monde, il y a des livres qui sont écrits en français, en anglais pour donner des informations ou bien du savoir sur les nouvelles technologies. Et là, du coup, je me suis dit qu'au Sénégal, notre langue nationale, c'est le Wolof. Et s'il faut communiquer avec ces gens-là, la meilleure façon pour qu'ils aient accès à l'information, c'est de parler dans une langue qu'ils comprennent. Donc, du coup, c'est la raison pour laquelle je me suis dit que je vais faire mon podcast en Wolof et parler des nouvelles technologies afin que les gens puissent démystifier. Parce que beaucoup de personnes pensent que les nouvelles technologies, c'est difficile à comprendre, mais il faut juste des gens qui vont faire l'effort de traduire pour les personnes qui ne comprennent pas.
Et vous avez surtout trouvé le public qui va avec, parce que vous êtes déjà à 6 saisons.
Oui, oui, je suis déjà à 6 saisons. Il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent actuellement parce que franchement, ils ont trouvé les émissions intéressantes parce qu'on le fait en Wolof. Et voilà, ils peuvent écouter en conduisant, en faisant la cuisine et ainsi de suite. Donc du coup, c'est vraiment accessible pour eux, oui.
Sinatou Saka, un podcast en Wolof, ça veut dire que c'est un aspect qu'il faudrait plus développer sur le continent africain pour pouvoir atteindre un public plus large.
Tout à fait, Pénaï. Je pense que c'est un enjeu indispensable. Je pense que clairement, c'est l'un des challenges. Je dirais même que c'est presque le futur finalement du podcast en Afrique. C'est comment on fait pour produire du contenu audio dans les langues locales. Et il y a vraiment énormément d'expérimentations, on va dire, qui ont commencé en Afrique anglophone, parce que la majorité des gens, évidemment, ne comprennent pas le français ou l'anglais. Et donc, si on veut s'adresser au plus grand nombre, ce n'est pas en parlant ces langues-là, qui sont sans doute écoutées, mais qui sont écoutées par une élite dans les capitales. Donc, du coup, je suis totalement d'accord, ne serait-ce que pour démocratiser, comme il l'a dit, le savoir pour des populations qui sont très éloignées de ces sujets-là, mais aussi pour permettre à d'autres personnes qui souhaitent mieux apprendre leur langue, par oui. exemple, de pouvoir aussi écouter ces podcasts-là pour voilà, enfin mûrir leur grammaire, etc. Et je trouve très intéressant ce podcast Tech en Wolof. Ça permet à des passionnés de technologie de pouvoir apprendre aussi certains mots Wolof dans ces domaines qui sont très techniques quand même, oui, à la base. Oui,
exactement. Ibrahim Diago, vous avez quelque chose d'autre à ajouter?
Oui, juste pour dire, comme votre invité l'a dit, il faudra faire des efforts. Il faudra que des personnes fassent l'effort de traduire la connaissance en des langues qui sont compréhensibles pour nos, à nos sociétés. Donc ça, c'est hyper important. Parce que moi, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que la langue ne doit pas être une barrière pour accéder à la connaissance. Oui. La technologie, la science, tout ça, ce sont des choses qui sont universelles. Il n'y a pas de couleur ni de langue. Donc il faudra des gens qui vont essayer de traduire pour notre population. Parce qu'il faudra souligner qu'aussi, 54% de la population sénégalaise sont des analphabètes, ils ne comprennent pas le français. Donc, est-ce que ces gens-là, ils ne sont pas intelligents? Ils sont intelligents. Alors, il faut leur donner l'information pour que, par exemple, dans ces populations-là, il y a des menuisiers, il y a des mécaniciens. Ces gens-là, s'ils ont l'information que les nouvelles technologies peuvent leur aider dans leur travail, ils vont se rapprocher directement de ces experts en informatique pour travailler avec eux. C'est là où commence même le développement, je pense. Ouais.
Merci beaucoup à vous, Ibrahim Diago. Merci et très bonne journée à Dakar.
Ok, merci beaucoup.
Marie Yemta, on se rend compte qu'il y a vraiment un public hein, sur le continent africain. On avait l'habitude de dire, ou en tout cas on a l'habitude de dire que le public du podcast en Afrique, ce sont les Africains de la diaspora. Alors que là, on se rend compte qu'il y a quelque chose à faire sur le continent même.
Absolument, il y a une immense demande et une attente en réalité de contenu en fait. Parce que moi, je crois qu'en réalité, l'idée, c'est que le podcast, ça peut être un moyen de répondre à un besoin en outillage, en fait, à un besoin en formation, et que c'est à travers ce médium qu'on pourra, je pense, renouveler un petit peu les codes de l'éducation populaire, et qu'on peut justement, comme le disait Ibrahim à Dakar, s'adresser à des publics qui sont pas nécessairement, qui sont pas nécessairement instruits, qui n'ont pas fait d'études supérieures, mais qui pour autant, en réalité, rencontrent des problématiques dans leur vie quotidienne. Auxquels ils pourraient répondre avec...
Ou des problématiques, des sujets qui les intéressent. Mais voilà, il faut qu'on s'adresse à eux dans les langues qu'ils comprennent.
Absolument. Et je crois que c'est vraiment c'est un enjeu, comme l'a dit Sinatou Saka, clairement, de produire dans des langues qui nous permettront de parler avec absolument tout le monde.
Oui. Sinatou Saka, votre dernier mot sur ça?
Alors, juste deux éléments dont nous n'avons pas assez parlé, malheureusement, pour moi. Le premier, c'est l'importance de l'utilisation de WhatsApp dans la diffusion de l'information. Il me semble que c'est un espace où beaucoup de choses vont se jouer dans l'avenir, dans la diffusion justement à travers, pour les populations qui ne comprennent pas les langues dominantes, donc le français et l'anglais, s'adresser à eux dans des groupes où ils reçoivent déjà du savoir. Comment utiliser cette plateforme, pour moi ça va être un élément très très important. Et puis dernière chose aussi, il va falloir que tous ces nouveaux podcasteurs puissent se rassembler entre eux, puissent commencer à réfléchir ensemble sur le futur de cette industrie dont tu parlais.
Structurer le marché africain du coup.
Structurer le marché, il me semble que ça va être aussi un enjeu important, c'est-à-dire comment est-ce qu'on essaye de réfléchir ensemble, d'organiser des festivals, on essaye de mettre en commun finalement tout ce qu'on a appris sur ce marché qui est naissant.
Oui. Et l'une des auditrices qui fait le podcast Tech Radio Burkina, elle a dit, hein, elle est diffuse sur Facebook. Ça veut dire que c'est là qu'il y a le public et c'est là qu'elle va chercher ce public-là. Merci beaucoup à vous d'avoir participé à l'émission. Cette discussion passionnante sur les podcasts prend fin. On pourrait en parler des heures, mais c'est déjà la fin. Voilà. Sinatou Saka, journaliste chef de projet éditorial en charge des podcasts de France Média Monde. Merci d'être venue dans ce studio.
Merci Penaï.
Marie Yemta Moussanang, fondatrice de l'association Génération Afrotopia et créatrice du podcast Afrotopique. C'était un réel plaisir de vous avoir dans l'émission. Merci.
Merci, Penaï.
Alors, merci également à l'équipe de l'émission, Guillaume Munier qui était aux manettes et à Beverly, l'assistante de production. Je vous retrouve samedi prochain et bonne suite de programme sur RFI. Le débat.